De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Remplir son caddie et plomber son compte en banque. L'inflation à la une. Ce matin, les prix augmentent nettement et le pire est à venir. Nous serons au supermarché avant le bureau de vote dimanche où cette question comptera beaucoup pour les électeurs. Et avec vous Nicolas, suite des grands entretiens avec ce matin.
Le candidat écologiste Yannick Jadot que vous pourrez interroger, amis auditeurs, en longueur d'ici 20-25 minutes environ. D'ici là, le Standard d'Inter, 01 45 24 7000 ou alors notre application. J'attends bien entendu toutes vos questions.
Évacuer pour ne pas mourir sous les bombes et les balles russes, l'appel des autorités aux Ukrainiens de l'Est. Dans ce journal aussi, la campagne de déclaration des revenus qui commence aujourd'hui. Le départ du patron du CHU de Guadeloupe, menacé, séquestré, molesté à cause des vaccins. Il est exfiltré à La Réunion. Et puis la retraite à 37 ans pour Joe Wilfried Tsonga. Le corps ne suit plus, le tennisman français préfère arrêter les frais.
France Inter.
Les pâtes, plus 13%, l'huile, plus 7%, la viande surgelée, plus 5%. Aujourd'hui, faire ses courses, c'est regarder les prix et constater les hausses qui ne font que commencer. Les patrons des grandes enseignes anticipent une inflation beaucoup plus forte, jusqu'à 16% pour les produits frais. De quoi largement entamer notre pouvoir d'achat. Première inquiétude des Français à 3 jours de la présidentielle. Alors aujourd'hui, nous avons installé nos micros dans un supermarché pour un 13-14 en direct tout à l'heure au super rue de Mamers dans la Sarthe, où tout le monde, Faustine Calmel, a les yeux rivés sur les étiquettes.
Café, la semaine dernière, à 2,02, il est à 2,45.
Ils sont nombreux ici, les clients, à connaître par cœur le prix des produits et à traquer les bons plans, comme Jérôme.
Je regarde beaucoup les catalogues. S'il n'y a pas une promotion, quelque chose, j'ai du mal à acheter comme ça, quoi.
Mais trouver un candidat qui fasse baisser les tarifs, ils n'y croient pas.
Ils parlent tous du pouvoir d'achat, parce que c'est un sujet que les gens veulent entendre. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Je vois pas de solution miracle.
Des prix qui grimpent. Martin le boucher le constate jusqu'à l'écœurement.
Et vous avez 4e offert. Cette semaine, on a encore des morceaux comme la bavette d'Aloyo. D'un coup, un matin, on arrive, c'est 7 euros plus cher. Le porc était encore à peu près abordable, ça ne l'est plus du tout. C'est même dégoûtant.
Pour limiter les frais, Laura, mère de 2 garçons, a sa technique.
Je me fais des listes de courses avec vraiment ce qu'il me faut. J'essaye de ne pas déborder. C'est pas facile. Exemple, en fait, devant les céréales, en fait, ils sont en train de se chamailler, mais bon, 5 euros la boîte de céréales, c'est quand même pas donné. Donc, on essaye de trouver un juste milieu pour les deux, quoi.
Et elle ira voter pour défendre son pouvoir d'achat.
Et là, en fait, voyant tous les prix qu'augmentent, avec la hausse du carburant déjà à plus de 2 euros. Je me suis mis à regarder tous les programmes qui arrivaient dans les boîtes aux lettres. Et du coup, j'ai fait mon choix, oui, ça y est.
Du coup, là, vous avez le 2 euros sur votre carte du magasin. C'est toujours ça de prix.
Mais la hausse des prix pourrait aussi décourager certains électeurs. Ici, au premier tour en 2017, l'abstention était de 3 points plus élevée que la moyenne nationale.
Objectif pouvoir d'achat, les candidats à la présidentielle l'ont bien ciblé. Ainsi, Marine Le Pen propose un panier de produits de première nécessité exonéré de TVA. Quand Emmanuel Macron, s'il est élu, indexera les pensions de retraite sur l'inflation dès cet été. Grands absents de cette campagne, les thèmes de l'environnement et du climat. 3e préoccupation des Français, selon un vaste sondage Ipsos hier, qui ne se traduit pas en intention de vote pour le candidat Jadot, donné autour de 6%. Yannick Jadot dans ce studio tout à l'heure, puis à Saint-Nazaire et à Nantes ce soir, pour son dernier grand meeting de campagne, baptisé Antoine Gignot, meeting du climat.
Le climat, c'est la menace principale, mais jusqu'ici, ça ne représente que 3% du temps de parole dans cette campagne, lance Marine Tondelier. Si nous n'en parlons pas, poursuit la porte-parole de Yannick Jadot, personne ne le fera pour nous. Près de Saint-Nazaire cet après-midi, le candidat écologiste sera donc face à la mer, sur un site menacé, un centre médico-social qui doit déménager face à la montée des eaux, avec un discours simple. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est le cœur du combat des écologistes depuis 30 ans et c'est indissociable du combat social. Le rapport des experts du GIEC cette semaine nous donne des arguments supplémentaires, précise l'équipe de campagne. On constate vraiment l'impact des émissions de gaz à effet de serre générées par 1% de la population, par les plus riches de la planète. Une idée au cœur du discours que Yannick Jadot veut porter à Nantes, dans un secteur qu'il connaît bien, pour y avoir été élu eurodéputé et avoir participé à la bataille contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dernier meeting de campagne, ou presque, puisque sans avoir le droit de s'exprimer en tant que candidat, Yannick Jadot participera samedi à la grande marche pour le climat.
Antoine Gignot, rayon des polémiques de fin de campagne. Maintenant, les comptes de McKinsey dans le viseur de la justice. Le parquet national financier, on l'a appris hier, a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale sur ce cabinet de conseil privé qui a travaillé pour l'État ces dernières années et qui n'aurait versé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020, selon un rapport du Sénat. De quoi alimenté la défiance de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat Debout la France, regrette qu'aucune enquête ne soit ouverte sur les éventuels conflits d'intérêts d'Emmanuel Macron.
Parce que pour François Fillon ou Fabien Roussel, c'est dans la minute. Et là, on a attendu 15 jours, alors qu'il y a un conflit d'intérêts supposé au sommet, avec des conséquences incalculables. Et je regrette qu'il soit si tardif, parce qu'en fait, c'est peut-être un moyen d'endormir les choses. En tout cas, je m'en félicite, mais je souhaite qu'elle aille au bout, et le plus vite possible, parce que les Français ne peuvent pas avoir un candidat président qui serait mis en cause dans une affaire gravissime.
Nicolas Dupont-Aignan au micro de Julie Drouin, qui dénonce aussi, Nicolas Dupont-Aignan, le recours à un autre cabinet de conseil en parallèle de la mission confiée à Boris Cyrulnik sur la petite enfance. Le neuropsychiatre s'en est ému dans l'Obs hier. Et puisqu'on parle d'argent public, c'est le moment de penser à l'impôt sur le revenu. Début de la campagne de déclaration à partir de 9h ce matin et jusqu'à fin mai, début juin, selon les départements. Comme chaque année, il y a des nouveautés, Delphine Simon, souvent liées à l'inflation.
Vu la flambée des prix des carburants, les automobilistes ont droit à une ristourne supplémentaire. Le barème kilométrique est relevé de 10%. Il concerne les salariés qui prennent leur voiture pour se rendre au travail ou lors de déplacements professionnels. À eux de déduire ce montant de leurs revenus si la déduction aux frais réels leur semble plus avantageuse que l'abattement par défaut de 10%. La prime inflation de 100 euros n'est pas imposable. Quant à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, elle est exonérée jusqu'à 2000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas d'accord d'intéressement dans l'entreprise. Autre nouveauté, la mise en place d'un crédit d'impôt pour aider à l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Si cette borne vous coûte 1000 euros, par exemple, vous pourrez déduire jusqu'à 300 euros. À noter deux nouveaux avantages fiscaux pour aider la presse. L'un est destiné aux lecteurs de magazines, de journaux papier et en ligne en cas de premier abonnement. L'autre à ceux qui souhaite investir dans un média.
Et cette année encore, les dons aux associations caritatives et culturelles seront déduits de l'impôt à hauteur de 75%.
France Inter, il est 8h07, il faut partir maintenant.
L'appel des autorités ukrainiennes aux habitants du Donbass devant les craintes d'une offensive majeure de l'armée russe. Évacuer tant que c'est possible, sous peine de risquer la mort, avertit la vice-première ministre ukrainienne. Les troupes russes redéployées dans l'Est après avoir quitté la région de Kiev notamment et laissé derrière elle les cadavres de civils assassinés. On n'a pas fini de les compter. Des familles recherchent toujours leurs disparus. D'autres enterrent leurs morts, comme dans le village de Gogoliv, dans l'est, à l'est de Kiev. Reportage signé Thibault Lefebvre.
Sur la route de Brovary, on vient de s'arrêter un peu comme tous les jours pour demander aux habitants s'ils ont été témoins d'exactions. Et on tombe sur une procession. Et c'est en hommage à un jeune homme de 32 ans. Il a récupéré sa voiture, c'était hier. Cette voiture a été minée, il a explosé, il est mort des suites de ses blessures.
Il n'était pas engagé dans l'armée, il était humain. Il n'a jamais pris une arme et il est mort.
Le frère d'Oleg, tenue militaire kaki, embrasse une dernière fois le défunt. Le cercueil est ouvert, le visage livide, apaisé, la barbe taillée de près.
On va en avoir des milliers comme ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi tuer des enfants sous les yeux de leurs parents? Ils n'ont rien fait de mal. Tirez-nous dessus, sur les militaires, mais pas sur les civils. Je n'en peux plus. Vous comprenez ?
Au premier rang, le frère d'Oleg, donc, son épouse enceinte, ses parents inconsolables, derrière les cousins, les amis, c'est tout le village de Gogoliv qui pleure l'enfant du pays.
Vous êtes le papa ? C'est votre fils que vous venez d'enterrer ?
C'est notre fils, oui. Ces idiots l'ont tué. Je vais vous dire ce que je pense. Poutine est un abruti. C'est le pire des fascistes. Vous comprenez ?
La rage d'une famille et d'un village en deuil, la guerre n'est pas terminée.
Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot à une heure de route à l'est de Kiev, dans le sud, à Mariupol. Le président Zelensky a un terrible pressentiment. Selon lui, la Russie bloquerait l'accès humanitaire pour dissimuler des milliers de morts dans la ville assiégée. Et tant que tout n'a pas été nettoyé par les soldats russes, dit-il, ils ont peur que le monde voie ce qui s'y passe. En Pologne, ce sont près de 2,5 millions d'Ukrainiens qui ont trouvé refuge, dont 600 000 enfants, comme chez nous en France. Ils ont été rapidement scolarisés, parfois très nombreux, dans une même école. Ils sont 130 dans l'établissement de Lublin, où s'est rendue Julie Pietri.
Les jours de la semaine, en polonais, bonjour, au revoir, quelques chiffres aussi. Ces enfants, la plus jeune à 5 ans, viennent d'un peu partout en Ukraine. Ce qu'ils aiment dans cette école, c'est la nourriture, la gym, la récré
Et puis aussi, il n'y a pas la guerre ici. Dans la classe, Marina, ukrainienne, est indispensable. Elle a fui Irpin, près de Kiev, et aide aujourd'hui les enseignants polonais à communiquer avec les enfants.
Si vous les comparez aux enfants polonais, ils sont silencieux. Personne ne parle, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans leur tête. Les enfants les plus jeunes, quand la maîtresse a commencé à leur apprendre l'alphabet, le premier mot en M qu'ils ont donné, c'était Mina. Pas maman, mais bombe.
En quelques semaines, l'école s'est métamorphosée.
Je vais vous l'écrire sur une feuille de papier. Il y a 256 élèves polonais et 130 élèves ukrainiens.
Yolanta Zviastoska, la directrice adjointe.
On n'est pas assez nombreux, bien sûr, mais nous n'avons pas le choix. On doit se débrouiller et faire face à cette situation.
Quand certains élèves partent subitement avec leur famille, ils sont immédiatement remplacés.
Julie Pietri et Olivia Branger en Pologne pour France Inter. Une nouvelle manifestation pour Ivan Colonna a encore dégénéré en Corse hier soir. La préfecture de Bastia a attaqué à coups de cocktail Molotov par des manifestants nationalistes qui s'en sont aussi pris au commissariat de la ville. C'est une information France Bleu RCFM. Autre île, autre violence qui ont eu raison de la présence du directeur du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotelon, qui défendait l'obligation vaccinale des soignants, avait été molesté, séquestré, menacé. Ce Guadeloupéen d'origine a donc fini par être exfiltré ou presque, nommé hier directeur de l'Agence régionale de santé de la Réunion, ce qui désole son ami Max Mathiassin, député MoDem de Guadeloupe, joint par Cécilia Arbona.
Je n'ai pas compris cette violence à son égard. Il ne pouvait plus vivre flanqué de gardes du corps dans ses déplacements non seulement professionnels, mais dans ses déplacements quotidiens, même pour aller à la plage. Mais oui, sa famille a été menacée sur les réseaux sociaux. Les photos de ses enfants, de ses trois enfants figuré sur les réseaux sociaux, son adresse, on demandait de s'en prendre à lui nommément. Il y a eu ces menaces, des coups portés, notamment à l'issue d'une séquestration, il a été molesté. Je pense que depuis très longtemps, il masquait derrière ce courage une situation extrêmement difficile pour lui. Moi qui le connais, je sais qu'il était profondément blessé.
Voilà, le Covid à la baisse, légèrement la baisse des contaminations qui se poursuit depuis quelques jours, mais les hospitalisations sont en hausse, 1500 chaque jour en moyenne depuis une semaine. Quand le monde d'après ressemble furieusement à celui d'avant, on sait que les bateaux de croisière sont extrêmement polluants, mais c'est toujours la fête quand un de ces mastodontes sort d'un chantier. Ainsi, le Celebrity Beyond, 326 mètres de long, 17 étages, a été livré hier par les chantiers de l'Atlantique à son acheteur, un armateur américain. Ambiance avec Hélène Roussel.
9h du matin dans le Grand Plaza, au cœur du bateau. Le vin coule à flot, de la paillette à gogo, sous le lustre géant en blouse ou bouton de manchette, c'est jour de fête pour les 1400 membres d'équipage. L'armateur et la directrice accueillis en rockstar, mais celle qu'ils attendent tous. La capitaine Kate McHugh, 60 millions d'abonnés sur Instagram, première femme américaine commandante d'un paquebot de croisière. Ce matin, dit-elle, je me suis réveillée, c'était Noël. J'ai entre les mains un bateau à plus de 800 millions d'euros. La croisière s'amuse après 2 ans de Covid. Lisa Lutoff-Perlot, directrice générale de la gamme Celebrity. Je me sens fière, je me sens bien, dit-elle, car c'est notre première livraison en chair et en os depuis le Covid. C'est tellement bon de revoir nos équipes au travail. Les chantiers aussi peuvent respirer. Jean-Yves Jaouin, directeur des opérations.
Je pense qu'on peut dire maintenant qu'ils sont confiants parce que la phase Omicron est un peu derrière nous et le marché redémarre vraiment.
Le Beyond, avec ses 200 machines à sous, ses suites de 140 mètres carrés et son spa avec injection de Botox, est passé sous pavillon américain.
Sachant qu'une semaine de croisière sur un paquebot géant équivaut à une semaine de route d'un million de voitures en termes d'émissions de particules fines, c'est le calcul qu'ont fait des chercheurs britanniques. Le site Parcoursup est de nouveau accessible, victime d'une panne hier après-midi. La date limite pour modifier ses vœux a donc été repoussée de 24 heures jusqu'à demain vendredi avant minuit. Il ne jouera plus que pour le plaisir, si ça lui fait encore plaisir. Joe Wilfried Tsonga lâche le tennis professionnel. Longtemps numéro 1 français, il participera fin mai à son dernier Roland-Garros avant de tirer sa révérence, parce que Fabrice Abgral, son corps ne suit plus.
À bientôt 37 ans, Joe Wilfried Tsonga a bien compris qu'il était inutile d'insister. Le manceau a multiplié les blessures durant toute sa carrière et physiquement aujourd'hui, il ne peut pas aller plus loin.
Le problème, c'est que mon corps, aujourd'hui, il a subi des blessures presque irréversibles que je dois aussi gérer. C'est une lutte qui est quotidienne.
Joe Wilfried Tsonga a tenu à bout de bras le tennis français durant près de 15 ans. À son palmarès, 18 titres, dont le Masters 1000 de Bercy en 2008. Le Manceau a soulevé aussi la Coupe Davis en 2017, atteint le 5e rang mondial en 2012, disputé 6 demi-finales en Grand Chelem, dont 2 à Roland-Garros. Mais en revanche, il n'a joué qu'une seule finale d'un tournoi majeur en 2008 à l'Open d'Australie, battu à l'époque par Novak Djokovic.
Et moi, quand je me retourne, je me suis toujours donné à fond. J'avais pas des facilités extraordinaires. En revanche, j'avais une volonté, j'avais un culot. C'est ces choses-là qui m'ont fait finalement faire ce que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, j'ai rien à regretter puisque tout ce que je l'ai fait à 800%. Quoi.
Dans 46 jours, Joe Wilfried Tsonga mettra un terme à sa carrière. Il fera ses adieux à la compétition à Roland-Garros, là où tout a commencé en 2005. Il pourra alors quitter la scène avec fierté et avec le sentiment d'avoir réussi sa carrière et bien au-delà de ses espérances.
Fabrice Abgral, enfin un triplé de Karim Benzema et le Real Madrid s'impose 3-1 chez le champion en titre Chelsea. C'était hier soir en quart de finale aller de Ligue des Champions qui a vu chuter le Bayern 1-0 à Villarreal.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Stéphanie, le ciel est perturbé.
Et plusieurs zones de pluie soutenues circulent aujourd'hui dans une ambiance ventée. La première s'étire pour la journée de la Vendée à la Gironde jusqu'au Massif central. La seconde s'installe au nord de la Seine ce matin et redescend en cours de journée vers l'Orléanais, la Franche-Comté et les Alpes, offrant de la neige, des 2000 mètres, mais laissant passer quelques belles éclaircies cet après-midi de la Bretagne au Hauts-de-France en passant par le bassin parisien et les Ardennes. Au sud, la journée est plus calme, lumineuse entre le sud de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen, plus nuageuse sur le Languedoc et l'ouest de l'île de Beauté. Le tout est accompagné de vents assez forts, 80 km sur une large moitié nord, voire 90-100 sur la façade atlantique et la Manche. En Corse, il pourrait dépasser les 150 km par heure entre la Balagne et le Cap Corse en fin de journée.
Et les températures reviennent à des valeurs de saison.
Sauf au sud où elles prennent un petit peu d'avance estivale, en tutoyant les 20 degrés. 20 degrés à Nîmes et Montpellier, 22 à Nice et Perpignan. Et sous la pluie et les nuages, on reste modestement aux valeurs printanières avec 11 à 15 degrés, 11 à Saint-Jean-de-Maurienne, 13 à Grenoble ou Amiens, 15 à Vannes, Paris ou Strasbourg.
Merci Stéphanie. France Inter, 8h18.